Je vous invite à vous tourner avec moi dans le livre des Rois, le premier livre des Rois au chapitre 21. Nous avons pour habitude d'étudier la Bible livre par livre, verset par verset. Nous étudions en ce moment le mardi le livre aux Romains, le livre des Romains, la lettre de Paul aux Romains. Et le dimanche, nous sommes dans l'Ancien Testament pour l'instant. Ce qui est merveilleux, c'est de voir, comme je l'ai dit, que ces choses ont été écrites pour nous, pour qui la fin des temps est arrivée. Alors, vous me dites peut-être, la fin des temps, c'est pas encore, mais si on connaît la Bible, si on voit la Bible, on voit que ces temps approchent très vite. Il semble que les choses se précipitent, des catastrophes de par le monde, des tremblements de terre, des tsunamis, des catastrophes nucléaires. On peut lire le livre de l'Apocalypse et voir ces choses en train de... La pollution des mers. Hier, je passais devant un magasin de sushi et je me dis, qui veut encore aller manger du sushi? Voilà, on va lire ensemble cette histoire qui n'est pas une légende, qui est une histoire historique. Dans le livre des Rois, chapitre 21. Après ces événements, je lis dans la Bible à la colombe. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Achab, au roi de Samarie. Achab parla ainsi à Naboth. « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » « Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. Achab, c'était le roi du royaume du Nord, après la division du royaume de Salomon en deux royaumes. Il était le roi de ce qu'on a fini par appeler le royaume d'Israël, avec la capitale Samarie. Là, il était donc le roi de Samarie. C'était un mauvais roi, qui était surtout marié à une mauvaise reine, une païenne, Jézabel, qui était d'un royaume païen. Elle était la fille d'un roi Et-Baal qui adorait les faux dieux Baal. Et c'est une femme très mauvaise, comme nous allons le voir, qui avait un esprit diabolique et qui avait une très mauvaise influence sur cet homme qui était un homme faible. Et là encore, on voit dans la parole de Dieu l'importance du choix d'un époux ou d'une épouse. La Bible nous dit de ne pas avoir d'attelage disparate avec les incroyants. Et souvent, les personnes tombent amoureuses, faute de chrétiens, vont tomber amoureux d'un païen ou d'une païenne, de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui leur dit qu'il est ouvert ou qu'il est prêt à recevoir. Et dans notre amour humain, on a tendance à oublier les commandements divins. Le Seigneur est bon, il peut nous bénir même lorsqu'on lui désobéit, mais la plupart du temps, le péché a ses conséquences, et si on n'obéit pas à ses commandements, souvent, on récolte ce qu'on a semé. Il avait vraiment choisi une femme païenne qui a été une source de bien des problèmes pour lui, et on verra dans le reste de l'histoire comment cette femme a causé sa perte. Achab, le roi de Samarie, avait une résidence donc dans la ville de Samarie, mais aussi un peu plus bas, plus au chaud, l'été, et même l'hiver surtout, à Jisréel, la grande plaine de la vallée d'Armageddon, là où se passera le dernier combat de Jésus et de ses saints contre les nations païennes du monde. Un endroit très beau. De cet endroit de Jisréel, on pouvait voir de tous les côtés la Galilée avec le lac de Tibériade, le lac de Galilée. On voit la mer, on voit les collines du Liban, on voit vers le sud, vers Jérusalem. C'est un endroit qui ressemble vraiment à un endroit paradisiaque dans un sens. Il n'y a pas de palmiers et de sable fin, mais c'est vraiment un bel endroit. Et ce roi faible avait un beau palais là. Mais c'était un roi qui avait de la convoitise. Si on devait résumer ce chapitre, il y a trois phases. Il y a la convoitise du roi, il y a le complot de la reine, et il y a la clémence de Dieu. 3 C, convoitise, complot, clémence. La convoitise matérielle de ce roi est terrible. Et encore une fois, lorsqu'on lit la parole, il ne s'agit pas de dire « Oh là là, c'était des païens, c'était des pécheurs, oh là là, Dieu a bien fait de les punir. » On a tendance à faire ça, on montre les autres du doigt au lieu de se regarder nous-mêmes. Et le Seigneur veut nous inviter à voir s'il y a de la convoitise dans notre cœur. La convoitise pour un écran de télé plus grand. De la convoitise pour un meilleur ordinateur. De la convoitise pour une pomme, pour un Apple, plutôt qu'un PC moins bien. Alors je vise personne, s'il y en a qui se... Je vois des sourires, je vois des coups de coude. C'est l'Esprit Saint qui vous reprend. À votre défense, je sais qu'on vit dans un monde où cette convoitise fait marcher l'économie. On pourrait de nos jours fabriquer des voitures qui durent 30 ans. Mais on fait des voitures qui ont une obsolescence rapide pour qu'il y en ait à acheter et à vendre. Cette convoitise, elle est terrible parce qu'elle n'est jamais satisfaite. On pourrait penser que quelqu'un comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, voilà, ouais, le jeune milliardaire créateur de Facebook, on aurait assez, mais c'est pas vrai. On a toujours besoin de plus. Quand on a un nouvel ordinateur, on veut un nouveau système son qui va avec, pour qu'il y ait un peu de basse. Puis tant qu'à faire, c'est mieux si on peut avoir une télécommande. Comme ça, on n'a pas besoin de se lever du lit le matin pour mettre la sono à fond. Et c'est incessant. Et lui, il avait une super propriété, un palais. Mais il disait, j'aimerais bien manger du cresson, ou j'aimerais bien manger des bonnes salades vertes, seulement j'ai pas de potager. Ah, le voisin, il a une bonne terre, ça ferait un joli potager. Et donc, il demande à son voisin, Naboth, un brave gars, qui lui dit, j'aimerais bien ton terrain, je sais que c'est une vigne maintenant, mais je peux t'en échanger, je t'en trouverai une meilleure, mieux exposée. Il essaye de le tenter comme lui est toujours tenté par plus. Puis il lui dit, mais même si tu veux pas l'échanger, je peux te la payer en argent et je te paierai bien. Il a l'habitude en tant que roi à ce que les gens fassent tous ses caprices. On va voir que c'est un homme capricieux, on l'a déjà vu, qui pique des petites crises où il boude. Il y a des surnoms pour les rois de France. On dit Jean le Valeureux, je ne sais plus qui, le Téméraire, Louis XIV le Grand, Louis le Grand. Lui, c'était Achab Ier, le grand boudeur. Quelle qualité pour un roi que de bouder. J'obtiens pas ce que je veux, alors je vais bouder. Il y en a parmi vous qui sont boudeurs, peut-être des dames, peut-être des messieurs aussi. Et bouder, ça s'appelle en anglais des fois de silence treatment. On dit rien, on parle plus. On veut que l'autre marine dans son jus, qu'il prenne bien conscience de ce qu'il a fait, c'était pas apprécié. Et ce roi boudeur, il est étonné de voir qu'en fait, ce voisin Naboth lui dit « pas question », mais il explique pourquoi. Il lui dit « que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères ». Il y avait en effet des prescriptions dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, dans le Livre des Nombres, où il était dit que la terre n'appartenait pas aux gens. La terre n'appartenait à personne. Et c'est vrai que des fois, on pense qu'on est propriétaire de quelque chose. Parce qu'on a reçu une facture, parce qu'on a un titre qu'on a signé chez le notaire avec 25 000 signatures. On a l'impression que c'est à nous. Mais il suffit d'une mauvaise maladie, d'un accident stupide, et voilà qu'on est parti, et la chose n'est plus à nous, elle est à nos héritiers, ou elle revient à l'État. Les Juifs avaient bien conscience que la terre ne leur appartient pas, et que c'était seulement quelque chose qui leur était confié en héritage, et Dieu avait donné dès le départ, lorsqu'il y avait le partage des terres dans le livre de Josué, etc., que cette terre, elle devait rester dans la famille, dans l'héritage de la tribu. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ça dans Lévitique 25, versets 23 à 28, dans le livre des Nombres, chapitre 36, verset 7. Tu ne donneras pas, tu ne confieras pas la terre à des étrangers. Et le brave Naboth, il ne faisait qu'obéir à la loi de Dieu. Il était convaincu, je lis Nombre 36,7, « Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. » Donc il fallait que ça reste dans la famille. Et lorsque il reçoit cette réponse, Achab, il retourne à son réflexe naturel, il vient bouder. Il rentre à la maison, il boude. Il est maussade et furibond. On avait déjà vu, je crois que c'était au verset, je ne sais plus, 20-43, lorsque l'Éternel avait condamné par la bouche d'un prophète inconnu le roi Achab parce qu'il n'avait pas exécuté le roi Ben-Hadad. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, maussade et furibond. Et là, il s'en va, maussade et furibond. Quand j'obtiens pas ce que je veux, au lieu de m'en remettre à Dieu, est-ce que je suis maussade et furibond? En langage commun aujourd'hui, est-ce que je fais la tête ou en langage un peu plus grossier, est-ce que je fais la gueule? Et puis, je le fais supporter par mon entourage. Là, en fait, c'est plus que faire supporter par son entourage. On voit qu'il a l'habitude de manipuler sa femme, qui est pourtant la manipulatrice par excellence. On va le voir quand elle concocte son complot. Elle lui dit qu'est-ce qui se passe. Il rentre chez lui, à verset 4, chez lui, maussade et furibond à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se couche sur son lit, détourne le visage et ne mange rien. Il va soit dans sa chambre, soit dans la salle où il prenait les repas, il se met sur son lit, mais il tourne le visage. Il veut qu'on sache que ça va pas chez lui. Il y a des gens, et j'en suis, des fois, lorsque ça va pas, j'aime que mon entourage soit au courant. Souvent, ma femme doit me dire, Je sais que ça va pas, mais c'est pas une raison pour faire souffrir toute la famille. Et je suis le seul dans cette situation, j'en suis sûr. Point de suspension. Alors c'est un péché, j'en demande pardon à ma famille et à Dieu. On doit prendre sur soi et aller se fortifier avec le Seigneur, passer du temps avec lui. C'est mieux que de démoraliser toute l'église ou toute l'assemblée, toute la famille, toute la ville, tout le pays. On est dans un pays où tout le monde se décourage mutuellement. On aime bien rouspéter en France. On aime bien voir toutes les situations qui sont dignes de mépris. On est le pays des guignols. J'aimerais bien qu'on soit le pays des acteurs, le pays des gens qui relèvent les manches et qui se mettent au travail. Mais c'est tellement plus facile de critiquer les choses, de critiquer le gouvernement, de critiquer les autres, sans jamais se remettre soi-même en question. Et sa femme s'approche de lui, verset 5, et lui dit « Pourquoi tu es l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne t'honorerai pas ma vigne. » Est-ce que c'est ce que lui a dit Naboth ? Il ne dit pas toute la vérité. Il déforme par omission. Il ne dit pas que il faisait référence à cet ordre biblique de ne pas donner l'héritage de ses pères. Il présente les choses de façon à ce que sa femme se mette en colère contre cet homme. Verset 7, on ne sait pas si elle le méprise, elle lui exprime du mépris en lui disant « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël ? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle prend les choses en main. C'est elle qui portait la culotte, comme on dit aujourd'hui. Quand une fois on a eu l'occasion de parler la semaine dernière pour les couples, de la position respective du mari et de la femme dans un couple. Et encore une fois, si on veut que le Seigneur bénisse le mariage, il faut que ce mariage soit conforme à ses prescriptions. La femme doit respecter son mari, le mari doit aimer sa femme. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte l'opinion de son épouse. Nancy me dit souvent que ce qui compte, c'est qu'elle sache que je l'ai entendue. Elle va me donner un avis et souvent son avis est très pertinent. Souvent je fais bien de suivre son avis. Mais il y a des fois où je dois rester ferme, lui dire « j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je ne suis pas d'accord et on va faire autrement ». Et c'est pas l'histoire d'être macho, c'est l'histoire de fonctionner selon les prescriptions de Dieu. Dieu qui a inventé le mariage, Dieu qui nous a branchés, qui nous a fait électroniquement parlant, c'est lui qui connaît le mode d'emploi, c'est lui qui sait comment ça doit marcher. Nous, souvent, on se dit, c'est une femme qui est formidable, je lui laisse prendre des décisions. C'est un aveu de faiblesse. Encore une fois, cette autorité dans le mariage doit être exercée comme l'autorité que Dieu exerce sur l'Église, sacrificiellement, avec amour, en se remettant en question, en donnant de l'amour à l'autre. Et elle lui dit, mais c'est toi le roi, arrête de faire la gueule, pour parler poliment, je vais m'occuper de ton affaire. Et on voit la conspiration, le complot de Jézabel, une femme pleine de manipulation, de mensonges. Elle écrivit alors au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, le sceau du roi. Elle envoya ces lettres aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle concocte un complot. Elle écrivit des lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12, ils proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth à la tête du peuple. Les Dévoriens vinrent s'asseoir en face de lui et ces Séboriens portèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Dans le livre qui suit, le deuxième livre des rois, au chapitre 9, on voit que ses enfants, ses fils ont aussi été lapidés. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Comme un enfant qui a fait un caprice et à qui ses parents ont cédé et qui est tout content d'avoir le jouet qu'il convoitait. On voit comment elle manipule, comment elle ment, comment l'idée c'est de réunir d'abord de convoquer un jeûne. Un jeûne c'est souvent une action de repentance vis-à-vis d'une situation où il y a un coupable, où il s'est passé quelque chose de mal, de mettre Naboth dans une place d'honneur et puis faire venir deux menteurs qui disent qu'en fait il a blasphémé contre Dieu. Et ça c'était passible de lapidation, c'était passible de la peine de mort, et elle fait ajouter qu'il a maudit le roi. Peut-être que dans son pays de Tyr, blasphémer le roi c'était un tyran, c'était aussi quelque chose qui était passible de la peine de mort, mais dans le royaume d'Israël, c'était la malédiction, le blasphème contre Dieu qui était digne de mort. Et le jugement est rapide, ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. La mort terrible d'un innocent, c'est quelque chose qui révolte tous les hommes. C'est quelque chose qui révolte tous les hommes parce que Dieu a mis en chaque homme une conscience par laquelle il se fait connaître. Il a mis autour de chaque homme la création par laquelle il se fait connaître. Nous n'avons pas d'excuse de dire que nous ne connaissons pas Dieu parce que nous avons en nous cette conscience du bien et du mal. Et tous devant l'acte qui est commis par Jézabel, sans doute avec l'assentiment de son mari qui manque de courage, qui n'est pas un homme qui prend ses responsabilités, mais il laisse plutôt sa femme utiliser son bureau, son internet, son email, le sceau d'Achab, les anciens reçoivent la lettre et on voit qu'ils sont eux aussi des faibles, ils manquent de courage, ils ne s'opposent pas à cette injustice. Nous sommes appelés à résister en tant qu'Église à l'injustice qui se passe dans le monde. Souvent, les évangéliques, les protestants, ne sont pas en première ligne pour dire au gouvernement ce qui va mal. Souvent, ce sont les catholiques qui ont plus d'empressement à reprendre les autorités lorsqu'il y a des choses qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Que ce soit dans l'avortement, que ce soit dans l'utilisation de Jésus, dans des publicités, de films, des fois pornographiques, des choses terribles. Il faut souvent attendre que les catholiques aient bougé, mais vous-même, nous-mêmes, moi-même, je dois parler dans mon entourage et défendre ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est beau, tout ce qui est de Dieu face à tout ce qui est du mal. Pour que le mal triomphe, il suffit que les justes ne fassent rien. Si vous êtes témoin d'injustice au travail, n'hésitez pas à demander l'aide du Seigneur à vous mettre en première ligne pour condamner, pour reprendre. Trop souvent, nous laissons le champ libre à l'ennemi et lui en profite. On voit qu'il y a une accumulation de violations des 10 commandements, le mensonge. D'abord, la convoitise, tu ne convoitiras pas, c'est quelque chose qui est dans le cœur qu'on ne voit pas. Les autres, on les voit, mais c'est cette attitude de convoitise. C'est aussi quelque chose de caractéristique. Lorsqu'on commence à violer un commandement, notre conscience se cautérise comme une plaie qu'on ferme au fer rouge. On perd toute sensibilité. Et quelque chose qu'on aurait eu du mal à faire, une fois qu'on l'a fait, non seulement on continue à la faire, mais on n'est plus prêt de faire d'autres péchés. Après le mensonge, ça va être le meurtre. Convoitise, mensonge, meurtre, dissimulation. Et on voit comment ce roi finit par voler ce qui ne lui appartient pas. Il a déjà violé, juste par convoitise, la moitié des 10 commandements. Vous qui avez fait un peu d'évangélisation avec Manuel, vous connaissez son traité, êtes-vous une bonne personne? Et avec cette méthode qui consiste à parler de la loi et de voir comment on la viole tous, que l'on soit chrétien de longue date, que l'on soit un grand pécheur, que l'on soit un, entre guillemets, petit pécheur, il n'y a pas de différence pour Dieu. Dieu a même dit que vous n'avez peut-être pas tué quelqu'un, mais si vous dites du mal de la personne, ou si vous pensez du mal de la personne, c'est comme si vous l'aviez déjà tué dans votre cœur. Vous n'avez peut-être pas volé une banque, mais est-ce que vous avez déjà ramené un stylo du travail? La loi nous condamne. La loi montre que nous sommes tous des pécheurs qui sommes prêts pour être punis par Dieu. Prêts à finir notre éternité en enfer. Oui, l'enfer existe. Oh, c'est pas possible. Ici aussi, il croit à l'enfer. L'enfer, Jean-Paul Sartre a dit, c'était les autres. C'est pas l'enfer avec les flammes dont parle la Bible. Ça devait être sympa de prendre le petit déjeuner avec Jean-Paul Sartre à Saint-Germain-des-Prés. Vous regardez, il dit, l'enfer c'est toi. L'enfer c'est les autres. Non, l'enfer c'est un lieu réel dont la Bible parle de façon très graphique et très précise et très sérieuse. Il y a un enfer qui nous attend si nous n'avons pas le salut en Jésus-Christ. Si nous avons à comparaître devant le tribunal de Dieu avec nos péchés sur nous, sans un avocat, sans que quelqu'un d'autre ait payé notre peine, nous allons finir en enfer. Vous dites, l'enfer, j'y crois pas. Viendra un moment où vous serez confronté à sa réalité. Je vous le garantis. Vous dites, il n'y a qu'ici-bas. Très bien, vivez à votre guise. Mais la vie ici-bas, elle est très courte vis-à-vis de l'éternité. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, disait Woody Allen. Notre vie ici-bas, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Et ne me dites pas que vous ne croyez pas à l'éternité, que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose après la mort, comme le disait le pasteur Bruce la semaine dernière, quand on voit une personne morte, on voit une coquille. On sait qu'il y a quelque chose qui est parti, et cette chose, c'est votre âme, c'est votre esprit qui vit pour toujours, qui va être ressuscité pour la perdition ou pour la félicité avec Dieu pour toujours. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous ne pouvez pas vous dire chrétien. La réalité de l'enfer, c'est une réalité qui doit diriger toute votre vie, qui vous fait supporter bien des choses. Ce n'est pas une façon qu'a trouvé le gouvernement pour augmenter les impôts sans que vous rallier pour que vous puissiez vous taire et souffrir en silence. L'enfer, c'est une réalité. Et nous devons vraiment avoir une sainte peur de la punition. La peur de Dieu, c'est aussi la peur de révérence, de voir qu'il y a un Dieu qui est tout puissant et que nous ne sommes rien devant lui. Ça doit être quelque chose qui fait partie de votre ADN, de vos pensées. Une chose qui nous choque aussi, c'est de voir le mauvais triompher. Là, on voit l'histoire de ce mauvais roi qui pique une crise, qui boude sa femme, qui fait tuer le propriétaire du bien qu'il veut acquérir. Et de voir que les méchants prospèrent, c'est souvent un problème pour le chrétien. C'est pas un problème nouveau. Le psalmiste Asaph, dans le psaume 73, exprimait cela. Si vous voulez, vous tournez au psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir envie de ce que les gens qui trichent, les gens qui ne respectent pas Dieu possèdent, leur style de vie, les riches, ceux qui sont célèbres? Il semble que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est, verset 4, est replé. À l'époque, ça voulait dire que leur corps était bien, bien gras, mais aujourd'hui, on dirait ils sont beaux, ils sont riches, ils sont célèbres, ils ont tout pour eux. Et vous êtes chrétien, vous dites, moi je suis au chômage, j'habite chez un copain et je suis pas en forme. Dieu ne me gâte pas. Le psalmiste, et bien d'autres passages dans la Bible, mais c'est un des passages les plus concentrés. Ils n'ont aucune part à la part des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. La crise ne les touche pas, on dirait aujourd'hui. L'industrie du luxe est plus prospère que jamais, alors que la crise frappe un nombre de plus en plus de personnes, que des milliards de personnes n'ont pas de quoi manger, de l'eau potable. Mais les sacs Vuitton, ça se vend comme des petits pains. Les diamants, les bijoutiers, LVMH, ça c'est des bonnes actions, même en temps de crise. Leur figure est débordante de muscles. À l'époque, on disait débordante de graisse. Verset 7, les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils disent ce qu'ils veulent sur les médias. On entend parler de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Et notre tendance est à se dire, c'est les méchants, toujours tranquilles, qui accroissent leur richesse. Et on a le sentiment que vivre pour Dieu, c'est en vain, ça n'amène rien. Verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Et puis, finalement, il y a une révélation, j'arrive, verset 17, au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Autrement dit, ils ne perdent rien pour attendre. Et on le voit même dans l'actualité, il y a des tyrans, des dictateurs qui se sont remplis les poches d'aide internationale, qui ont des fortunes qui se comptent en milliards, qui ont des villas à Villefranche-sur-Mer, qui ont des villas sur la Côte d'Azur, des appartements magnifiques à New York, des îles dans le Pacifique. Ils ne perdent rien pour attendre. Nous devons savoir que la justice de Dieu est lente, mais la justice de Dieu est inévitable. Elle ne peut pas être arrêtée. Et c'est ce qui se passe avec notre Achab et notre Jézabel. Dieu voit tout. Des fois, on s'en tire, on fait des choses qui sont malhonnêtes, des choses qui sont mal, en secret, on pense. Mais rien n'est en secret pour Dieu qui voit tout. Verset 17, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, notre prophète, le Tishbite, en ces mots, « Lève-toi, descends à la rencontre d'Achab, roi d'Israël, qui est à Samarie, le voilà dans la vigne de Damoth, où il est descendu pour en prendre possession. » Hier, on plaisantait en travaillant sur le toit qu'il fallait sourire quand on regardait le ciel parce que peut-être on était pris en photo par Google, pour Google Earth. Mieux que Google, Dieu voit tout. Il voyait où était Achab, il était dans sa petite vigne qu'il allait transformer en jardin potager. Tu lui parleras en ces termes, ainsi parle l'Éternel. Quoi ? Tu as commis un meurtre et tu prends possession et tu lui diras ainsi par l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, la Bible est toujours très graphique. On voit les chiens, ce n'étaient pas des chiens de compagnie, c'était des meutes de chiens plus ou moins sauvages, des chiens lépreux pratiquement. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Élie, le prophète qui avait lutté contre les prophètes de Baal et d'Astarté, qui avaient disparu un peu de la scène, il était mis à l'écart pendant quelque temps. Les derniers passages, c'est un autre des autres prophètes inconnus dont on ne connaît pas le nom, qui ont été employés par Dieu. Ça a dû être dur. Les moments où Dieu vous met de côté. Si vous avez travaillé dans un ministère, que ce soit un ministère d'enseignement ou un ministère de service, pour une raison ou pour une autre, les portes semblent se fermer et vous n'avez pas d'occupation où vous pouvez dire je travaille pour le Seigneur. Mais souvent, ce sont les moments que dont le Seigneur a besoin pour nous rapprocher de lui. On peut se perdre dans le service. On peut être pasteur d'une église et on se retrouve administrateur, donneur d'études et on peut notre cœur peut et dans tous les cas de service, on peut faire les choses par habitude, pour être bien vu par les autres, parce que le pasteur l'attend. Mais ce qui compte avant tout, c'est notre relation avec Jésus, notre cœur, parce que c'est de cette relation proche, intime, gratifiante, encourageante, excitante, merveilleuse, formidable, la plus belle des choses qui puissent se trouver sur la terre. C'est de cette relation qu'il va y avoir un service qui va porter du fruit. On peut se bouger, on peut faire des tas de choses, on peut s'agiter en vain. Et là, Élie, il est toujours à l'écoute du roi, du Dieu, parce que Dieu lui parle et il agit. Et Achab lui dit, « Ah, tu m'as retrouvé. M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Me voici, je fais venir le malheur sur toi, je te balayerai, je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Achab, sa descendance, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Aïa, parce que tu m'as irrité. » Et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel et il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne, un commentaire, qui se soit vendu comme achat pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Élie, on a l'impression qu'il est dans son trip, là. Il est content dans son truc. Dieu lui a dit de venir condamner Achab et Jézabel. Et il y va, comme le Seigneur lui a demandé. On a l'impression qu'il est content de pouvoir dire tout ça à la face du roi. Naboth avait eu du courage de résister au roi. Élie a du courage de résister au roi. On verra dans le chapitre précédent un autre prophète, Michée, qui reste dans l'histoire comme un prophète qui n'avait pas peur de dire la vérité aux hommes, quel que soit leur rang. Et là aussi, gardons nos cœurs de dire les quatre vérités aux gens qui ne nous intimident pas ou les gens qui n'ont pas d'influence sur nous. Essayons de dire les quatre vérités aux gens qui ont une influence sur nous, à nos patrons, à nos parents, à nos pasteurs, s'ils dévient de la volonté de Dieu de façon claire et triste. Achab n'aimait pas beaucoup Élie. Il lui avait dit qu'il était le responsable des malheurs d'Israël dans un passage précédent. Maintenant, il l'appelle son ennemi. En fait, le vrai ennemi d'Achab, c'est bien sûr Satan, qui est l'ennemi de tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et Satan utilise sa femme Jézabel, qui est le véritable ennemi sur terre d'Achab, le roi d'Israël. C'est pas Élie qui est l'ennemi, au contraire, il devrait réaliser qu'en fait, c'est son meilleur ami. Proverbe 27, 5. « Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Il vaut mieux quelqu'un qui vous dise la vérité en face, pas pour vous abaisser, mais pour vous faire changer, pour vous faire repentir et changer de voie, que quelqu'un qui vous dit rien et qui va avec vos péchés, qui les conforte en ne disant rien ou en semblant les approuver. Voilà, on voit combien Achab était un mauvais roi, comment il est dit qu'il avait personne qui s'était vendu comme lui. Il s'est vendu pour pas pour tant de pièces d'argent. Entre parenthèses, Naboth, c'est un type de Jésus-Christ, l'innocent puni injustement. L'innocent qui respecte la loi, qui respecte Dieu, qui est puni injustement. Et on pourrait penser que c'est une bonne condamnation, qu'on s'attend à voir le sang, on veut voir les chiens manger du Jézabel. À l'époque, il y avait une publicité, c'était la viande canigou pour les chats ou pour les chiens. Là, c'est du Jézabel en boîte. Ça va faire du bien. On est content de voir le méchant puni. Mais ce passage, j'aime pas tellement ce passage. Je sais pas pourquoi, c'est malsain. Et pourtant, ce passage nous instruit d'abord sur le péché, comment le péché entraîne le péché, comment un homme faible qui n'est pas résolu dans ses voies avec Dieu peut se laisser entraîner et au point d'être connu dans la parole pour toujours comme quelqu'un qui a fait les choses les plus horribles. Mais ce passage, il est merveilleux parce que il y a le verset 29. On va lire ensemble versets 27 à 29 pour terminer. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et jeûna. Il couchait avec ce sac et marchait lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Incroyable! On a vu la convoitise, le complot, maintenant on voit la clémence de Dieu. Dieu, et ça a dû énerver Élie, on le sent. On a le sentiment qu'Élie, il n'aurait pas voulu entendre ça. Dieu se félicite de voir une repentance chez Achab. Achab, il était long à la comprenette. Il a vu la victoire d'Élie sur les prophètes. Le peuple qui a dit le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie. Et pourtant, rien n'y a fait. Il a continué à négliger, à mépriser le vrai Dieu et à continuer à donner la place à sa femme et à ses idoles dans le royaume. Il a continué à vivre dans le péché, à vivre guidé par ses convoitises. Et puis là, cette menace, on peut penser que sa conscience, finalement, s'est réveillée. Comment est-ce qu'il pouvait jouir en paix, en bonne conscience de son potager? L'histoire ne dit pas, peut-être qu'il a commencé à vouloir enlever les vignes, à planter quelques salades, planter des légumes bio. À l'époque, tout était bio, c'est formidable. Et pendant qu'il plantait, pendant qu'il était là à se dire « ça y est, je l'ai enfin », il y avait sa conscience qui résonnait. Il dit, tu as tué un homme. Élie qui répond à Dieu et qui va le prononcer ses condamnations. Et on pourrait ajouter un quatrième C, c'est la condamnation de Dieu par Élie. Il y a la clémence de Dieu. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab montre une repentance. Il déchire ses vêtements, il met un sac sur son corps, il jeûne. Il couchait avec ce sac, il marchait lentement dans une attitude de repentance. Est-ce que c'était une vraie repentance? Est-ce que c'était un regret? Tout porte à croire que c'était une vraie repentance temporaire. Parce que Dieu réagit à cette repentance. Il lui a dit, Élie, tu as vu ça? Le mauvais roi Achab. Il se repent, il est en train de demander pardon par il s'est déchiré les vêtements, tout ça c'était des signes de deuil, de repentance, de revenir à Dieu. Et parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. On verra au chapitre 22 que ça se termine mal quand même. Et certains se demandent c'était pas une vraie repentance. J'aime bien ce que dit un commentateur qui dit « Dieu semble payer par un bienfait temporaire une repentance temporaire. » Mais ce passage nous montre que Dieu est prêt à pardonner le plus grand des pécheurs. Ça doit me réjouir, parce que moi je suis le plus grand des pécheurs. Comme Paul le disait, comme nous devrions tous en avoir la conviction. Comme Dieu aime bien nous le faire penser. Parce que même s'il n'y avait eu que nous, Dieu serait mort pour mes péchés. Est-ce que Achab sera au paradis? Est-ce que les grands criminels, les grands tyrans seront au paradis? Je crois qu'on va avoir des surprises. La repentance, l'humilité devant Dieu, Dieu réagit par le pardon. Paul, l'apôtre Paul, était le plus grand ennemi de l'Église naissante. Il poursuivait les chrétiens pour les faire mourir. Dieu aime bien les trophées de sa grâce. Et peut-être qu'Achab, ce sera un des trophées sera pas au mur, la tête avec les cornes, mais il aime savoir que sa puissance de pardon, son amour pour les hommes n'a aucune limite. Et vous pensez peut-être à des personnes, vous dites qu'il n'est pas possible que cette personne vienne à Christ. Dieu veut que vous sachiez que c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Vous devez continuer à partager l'amour de Dieu en acte, mais aussi en parole. Montrer aux gens qu'ils ont besoin du pardon, du sacrifice de la croix, parce qu'ils sont des pécheurs. Et nous avons eu un merveilleux témoignage il y a quelques jours. Personne pour lesquelles Cathy a prié, sa sœur Nadia qui est décédée, sa fille, qui sont venues à Christ. Pas que c'était une Jézabel ou une Achab, mais il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. Amen.